écoutez RFI, il est 3h en temps universel, 5h à Paris, 6h à Damas.
Marion Cazeneuve.
À la une, ces violences confessionnelles en Syrie entre des groupes sunnites liés au pouvoir et des druzes. Les autorités de Damas tentent d'apaiser les tensions, mais elles risquent de grimper encore puisque le voisin israélien s'en mêle. Après de longues négociations, l'Ukraine et les États-Unis s'accordent pour la création d'un fonds d'investissement commun sur les ressources naturelles du pays en guerre. Ce 1er mai marque la journée internationale du travail avec de nombreux cortèges prévus à travers le monde pour défendre les droits des travailleurs. Et puis l'Espagne empêche l'installation sur son territoire du MS-13, ce gang salvadorien particulièrement violent. Madrid a procédé à une série d'interpellations il y a quelques semaines, mais on ne l'a appris qu'hier. Sous pression, le nouveau pouvoir syrien tente de contenir une nouvelle flambée de violence. Les affrontements se sont poursuivis hier entre des groupes armés liés aux autorités sunnites et des combattants druzes. 22 personnes ont été tuées en périphérie de Damas et Israël s'en est mêlé avec des frappes hier dans cette région. Israël dit vouloir protéger les druzes. L'État hébreu abrite aussi une importante communauté druze. Les autorités de Damas tentent de rétablir le calme. Elles ont déployé des forces de sécurité, mais la situation reste explosive, d'autant plus désormais avec cette intervention israélienne. Notre correspondant Mohamed Erami s'est rendu au plus près de Jaramana, cette banlieue de Damas où se concentrent les tensions. Reportage.
À Jaramana, banlieue druze de Damas, la tension est extrême. Depuis l'assassinat de 13 personnes après la diffusion d'un enregistrement jugé blasphématoire, des barrages ont été dressés à l'entrée du quartier qui a été entièrement bouclé, notamment sur le pont qui le sépare de Douala, un quartier limitrophe à majorité sunnite. Rami, habitant proche de cette frontière, aide à filtrer les voitures.
Nous ne sommes ni militaires ni policiers, mais ma maison est juste là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Que je reste enfermé chez moi? Je préfère être dehors et aider. On ne peut protéger personne, mais on est là pour aider les gens et réguler la circulation.
Dans les rues, presque tout est fermé. Abou Samer, coiffeur, ouvre brièvement sa boutique. Pour lui, cette vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, est inacceptable.
C'est injuste que tout le monde paie les conséquences pour la faute d'un seul. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être protégé par Israël? Israël est le plus grand pays contre l'islam et contre tout.
Khaled, quant à lui, chauffeur de taxi à Douala, qui a ses habitudes dans le quartier de Druze, n'a pas pu rejoindre sa clientèle et craint pour l'avenir.
Moi, je prends mes clients tous les jours à Jaramana, mais maintenant, j'ai peur qu'Israël vienne ici. Sincèrement, si ça se produit, je vais perdre mon travail définitivement.
Devant le pont, des hommes armés, d'autres non, un drapeau syrien fait face au drapeau druze. Entre eux, 300 mètres de distance, la ligne de front ici n'est plus symbolique, elle est visible et elle inquiète. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Et ces affrontements ont réveillé le spectre des massacres qui ont fait plus de 1700 morts il y a quelques semaines au sein d'une autre minorité, la minorité alaouite. Plusieurs pays et organisations appellent au calme. Le voisin turc demande à Israël de cesser ses frappes. L'ONU partage son inquiétude. Le grand moufti de Syrie, grande autorité religieuse dans le pays, met en garde contre la discorde religieuse. Israël occupé aussi à éteindre ses importants incendies autour de Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme que les feux pourraient atteindre la ville. L'armée a été déployée en renfort. Plusieurs villes en périphérie ont été évacuées. L'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv est fermée. L'Italie et la Croatie ont envoyé de l'aide. L'Ukraine et les États-Unis signent un accord économique, vaste accord qui prévoit la création d'un fonds d'investissement dans la reconstruction du pays en guerre, en donnant aux Américains un accès aux ressources naturelles ukrainiennes, gaz, pétrole, minerais. Kiev conserve toutefois l'entière propriété et le contrôle de ses ressources. Donald Trump, il y a quelques jours, voulait signer un accord similaire, mais plus contraignant pour Kiev. Plusieurs fois remanié, le texte a donc été signé hier à Washington. Il doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien. L'Ukraine toujours sous les bombardements russes. Dans la nuit, 2 personnes ont été tuées, 5 autres blessées dans une frappe de drone à Odessa dans le sud, selon le gouverneur de la région.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
4h04 à Kinshasa. En RDC, la justice militaire a saisi le Sénat pour demander la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, sénateur à vie, il est soupçonné de lien avec la branche politique du M23 et s'était rendu à Goma, selon nos informations, il y a 2 semaines. Goma, ville du Nord Kivu, contrôlée par le groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Et 3 mois après la chute de Goma, les premiers transferts de militaires et policiers congolais vers Kinshasa ont commencé. Ils avaient trouvé refuge dans une base de la MONUSCO, l'opération d'évacuation, sensible et encadrée par le CICR, se déroule dans un climat tendu, Passion Ligaudi.
Une première centaine d'entre eux a quitté Goma ce mercredi. Le transport s'est fait par étapes. Les militaires, les policiers et quelques membres de leur famille quittent d'abord Goma par la route, sont ensuite héliportés jusqu'à l'aéroport de Mavivi près de Beni avant de prendre un vol du CICR vers Kinshasa. Une opération encadrée de bout en bout par le Comité international de la Croix-Rouge. Ces hommes désarmés conformément aux règles onusiennes étaient protégés par la MONUSCO depuis fin janvier après la chute de Goma face à la FCM-23 soutenue par Kigali. Pendant ces 3 mois, la mission onusienne a assuré leur sécurité malgré un climat tendu. On se souvient que la FCM-23 avait accusé la MONUSCO de faciliter des fuites vers de groupes armés Wazalendo, des accusations fermement démenties par l'ONU. La FCM-23 a également été pointée du doigt pour avoir traqué des militaires jusque dans des hôpitaux. Le CICR joue un rôle déterminant dans cette évacuation en tant qu'intermédiaire neutre à la demande des FRDC. Tous les transferts se font sur base du consentement individuel sous la protection des conventions de Genève. Les FRDC saluent cette opération et remercient publiquement la MONUSCO et les CICR pour leur engagement dans des conditions qualifiées de particulièrement difficiles.
Passion Ligaudi. Au Mali, le Conseil des ministres acte la dissolution des partis politiques. Cette dissolution faisait partie des recommandations formulées lors des consultations dites des forces vives de la nation. Parmi les autres propositions, l'élévation du général Assimi Goïta au rang de président de la République pour 5 années renouvelables. Les autorités n'ont pas communiqué sur ce point. On y revient plus en détail dans nos prochaines éditions. De nombreuses manifestations prévues à travers le monde ce jeudi 1er mai. Rendez-vous historique des travailleurs. En France, plus de 250 cortèges sont prévus. Le mot d'ordre cette année, la lutte contre l'extrême droite, pour les libertés et la justice sociale. Les syndicats s'inquiètent notamment du futur budget qui prévoit 40 milliards d'euros d'économies. L'intersyndicale formée par la CGT, Solidaires et FSU a aussi invité les confrères internationaux au vu des difficultés auxquelles font face les travailleurs à travers le monde. Sophie Binet est la secrétaire générale de la CGT.
C'est un 1er mai qui est beaucoup plus marqué par la dimension internationale parce que on le voit chaque jour, la situation internationale, elle pèse très lourd, à la fois avec un contexte de guerre très choquant en Ukraine comme en Palestine. Et donc ce 1er mai, nous manifesterons pour affirmer notre solidarité en direction de nos frères et nos sœurs ukrainiennes, ukrainiens, palestiniens, palestiniennes, pour exiger une paix juste et durable en Palestine comme en Ukraine. Et puis ce contexte international, c'est le contexte de guerre commerciale que Trump et Elon Musk sont en train de mettre en place. Dans ce contexte-là, ce que nous voulons montrer, c'est une internationale des travailleurs et des travailleuses, une internationale ouvrière. Nous ne laisserons pas mettre les travailleurs et les travailleuses en opposition sur des critères de nationalité, de religion, de couleur de peau. Nous sommes unis, nous avons des intérêts communs, nous aurons les mêmes revendications dans le monde entier. Nous serons rassemblés pour exiger la paix et la justice sociale.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT avec Anne Verdaguer. On y revient. On revient plus largement sur cette dimension internationale dans le dossier du journal de 7h, temps universel. En Espagne, ce vaste coup de filet contre un violent gang salvadorien, le MS-13. On en a beaucoup parlé avec l'expulsion par les États-Unis vers le Salvador de 250 hommes soupçonnés de faire partie de gangs, dont celui-ci. Julien Chavannes, cette organisation tentaculaire aurait donc cherché à s'installer en Espagne avant d'être interceptée.
C'est une alerte du FBI qui a mis la police espagnole sur la piste du gang. Les agents américains ont un tuyau. Le MS-13 a dépêché des hommes en Espagne pour lancer une nouvelle branche dans le pays. Le 27 mars dernier, les policiers espagnols perquisitionnent plusieurs habitations à Madrid, Barcelone, Tarragone et Alicante. 27 personnes sont arrêtées, de fausses armes à feu et de la drogue saisie. Les enquêteurs décrivent un groupe déjà bien implanté, solide, hiérarchisé avec des rôles bien définis. Les membres du gang vendaient des stupéfiants pour financer l'achat d'armes à feu. Créé dans les années 80 par des immigrés du Salvador arrivés aux États-Unis pour fuir la guerre civile dans leur pays, le MS-13 est tentaculaire et décentralisé. L'organisation criminelle compterait plusieurs dizaines de milliers de membres en Amérique centrale, au Mexique et aux États-Unis, sans aucun chef unique reconnu.
Julien Chavannes. Et l'Espagne qui a retenu son souffle jusqu'au bout hier soir. Match spectaculaire entre le FC Barcelone et l'Inter Milan en Ligue des Champions. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 3-3. Un match plein de rebondissements pour le match aller. Rien n'est joué donc avant le match retour mardi à Milan. RFI 5h10 à Paris, 3h10 en temps universel. À suivre, le grand reportage.